France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Comment fait-on l'histoire ? C'est notre sujet cette semaine et aujourd'hui, un problème devenu classique pour l'histoire et pour toutes les sciences dites humaines. S'agit-il d'expliquer ou de comprendre ? À vrai dire, cette distinction n'est pas facile à préciser. Expliquer signifie être capable de déterminer des causes aux événements, même si ce sont des causes complexes et non exhaustives. Comprendre, est-ce différent ? Ce mot en allemand « verstehen » renvoie en réalité à toute une discussion apparue à la fin du XIXe siècle en Allemagne. Plusieurs penseurs, et en particulier un certain Wilhelm Dieterichs, ont fait remarquer que l'histoire et les sciences humaines ne pourraient pas parvenir à des explications aussi sereines et sûres que les sciences de la nature. Prendre en compte par exemple les motivations des acteurs d'un moment historique et les processus engendrés par leurs interactions, c'est autre chose malgré tout. Et donc, à la faveur de cette discussion, on s'est mis à parler de comprendre, verstehen, plutôt qu'expliquer, erklären. Il faut dire qu'à la même période se développait, venue de France, une autre approche des phénomènes humains qui prétendait, elle, parvenir à définir les liens de causalité et les lois à l'œuvre comme on le fait dans les sciences de la nature. Cette approche était celle du courant appelé le positivisme, fondé par Auguste Comte et prolongé par Émile Durkheim. Significativement, la sociologie allemande, celle de Max Weber, sera sensiblement différente de celle de Durkheim. Et la question, qu'est-ce que l'histoire comme discipline, comment travaille-t-elle ? Question à propos de laquelle s'étaient déjà illustrées des figures allemandes à la charnière des 18e et 19e siècles, comme nous l'avons vu hier dans le premier épisode de cette série. Eh bien, cette question est restée très travaillée dans la pensée allemande. Pour autant, nous allons le voir, plus la discussion a avancé, empiétant sur les débuts du XXe siècle, plus la frontière entre comprendre et expliquer est devenue en réalité moins rigide. Que cette affaire est subtile et complexe, mais nous avons invité d'excellents connaisseurs pour l'éclairer. Bonjour Christophe Bouton.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de philosophie allemande et singulièrement des questions relatives au temps et à l'histoire. Et bonjour Denis Thouard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, quoiqu'à distance depuis Berlin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste d'histoire de la pensée allemande, actuellement rattaché au centre Georg Simmel à Paris, autre penseur et sociologue allemand à peu près à la même époque que Weber, Georg Simmel, dont nous parlerons, et vous êtes aussi au centre Marc Bloch à Berlin. Alors nous le verrons, Simmel était l'un des acteurs de cette discussion allemande de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Nous allons décortiquer tout cela. Pour commencer, voici une parole d'historien, Paul Venn, sur France Culture en 2008.
Il y a deux problèmes tout à fait différents. Le premier problème, c'est qu'un événement, dans sa singularité, dans ses frontières historiques bizarres, dans son arbitraire de cailloux découpés au hasard, est ce qu'il est, et quelques perspectives qu'on prenne, on ne peut pas le changer. Il n'est pas vrai que les choses varient avec l'interprétation qu'on en donne. Les choses, en leur temps, ont été ce qu'elles étaient. On peut commenter un texte de toutes les manières, si l'on est capricieux, mais le texte n'est pas son propre commentaire, il est ce qu'il est. Et Foucault est un positiviste, et tous les historiens le sont, qui croient que les événements sont ce qu'ils sont. Il y a un autre problème. Qu'est-ce que c'est que l'histoire avec un grand H ? Alors là, c'est un tout autre problème. C'est le choix que vous en faites. Vous pouvez préférer l'histoire politique, vous pouvez préférer l'histoire par mise en intrigue, vous pouvez préférer l'histoire en la rapportant à la société, vous pouvez préférer, comme Foucault, l'histoire comme explicitation et non pas explication de ce que furent ces singularités qu'ont été, par exemple, la sexualité antique ou les supplices d'Ancien Régime.
Alors, des historiens de cette envergure, comme Paul Venn, évidemment, sont aussi des philosophes de l'histoire. Et c'est souvent avec eux qu'il faut commencer. Paul Venn explique ici que tout événement est toujours un peu un caillou découpé dans l'histoire avec une dimension, je le cite, on l'a entendu, arbitraire. Mais en même temps, il dit beaucoup de choses. Il dit qu'on ne peut pas interpréter n'importe comment. Il y a quand même des documents. Il y a peut-être même toujours quelque chose de positiviste. C'est-à-dire, Christophe Bouton, il y a des choses qui s'imposent. Il y a des faits, malgré tout, au sein d'interprétations, certes variables. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi ? C'est-à-dire que quoi qu'on dise aujourd'hui sur le caractère un peu relatif des récits historiques, il y a une dimension de scientificité. On ne peut pas refaire les documents et changer les faits complètement.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que l'histoire, c'est l'expression de Marc Bloch, est un récit par traces. Ces traces sont les documents. Et les documents créent quand même une contrainte pour l'historien, dans la mesure où il doit les citer et il ne peut pas leur faire dire le contraire de ce qu'ils disent. Donc d'un côté, les événements sont découpés, j'aime bien cette expression de Paul Venn, au sens où il y a une sélection en fonction d'une question historique. On fait parler les documents en fonction de questions qu'on leur pose, mais d'un autre côté, on peut pas faire dire n'importe quoi aux documents. Il y a une expression de Koselleck, qui est historien allemand important du XXe siècle, qui parle de veto des sources. Voilà. Donc, il y a plusieurs interprétations pour une source, mais parfois la source dit non, ça on ne peut pas le dire. Et donc, ça crée une limite au jeu des interprétations historiques.
Vous êtes d'accord, Denis Thouars ? Je ne saurais oublier, je sais que vous non plus, vous n'oubliez pas, que Max Weber, dans une conférence célèbre de 1917, a dit que l'éthique du savant était de savoir reconnaître aussi, je le cite, les faits inconfortables pour lui, pour ses convictions, pour le modèle qu'il est en train d'élaborer, etc. Les faits, ça résiste.
Les faits, ça résiste. Alors, je voudrais compléter cette formule qui est très inspirante du récit par trace, en rappelant que il y a un relatif consensus là-dessus, hein, dans la discussion qui se mène au XIXe siècle. Pour les historiens, ce qui est principal, c'est les sources. Mais ce qui dit source dit aussi critique des sources. Et donc ça, c'est la deuxième opération du second regard de l'historien sur ses sources pour assurer leur provenance, leur authenticité, par exemple. Il y a une autre démarche qui complète et qui semble différente, qui est l'interprétation ou la mise en intrigue. Qu'est-ce que je fais de ces sources? Qu'est-ce que cela nous dit? Et puis, il y a le récit lui-même, qui est une opération quasiment poétique, hein, de mise en mots des résultats de cette science historique. Et là, ces quatre moments du travail historien, eh ben, ils sont tout à fait reconnus par les différents auteurs dont on parlera et qui s'inscrivent eux-mêmes dans une longue discussion qui a duré sur un demi-siècle entre Diltaï et Weber, hein, et au-delà, sur le statut de la connaissance historique.
Et vous seriez d'accord pour dire que, même s'il résiste très fortement à ce qu'on appelle le positivisme français, l'idée que les sciences humaines fonctionnent comme les sciences de la nature, en tout cas qu'il y a un niveau de certitude et de vérité similaire, néanmoins, ils ne sont pas en train de faire un plaidoyer pour l'arbitraire des récits, les compréhensions fantaisistes. Il y a quand même un souci de scientificité qui est énorme. Il ne faudrait pas se méprendre là. Et la notion de fait, comme vous venez de le rappeler, et comme on l'a dit, est au cœur. Je dois dire que j'ai à cœur de le dire d'entrée de jeu, pour qu'il n'y ait pas de mal-donne, Denis Thouars.
Absolument. Un des modèles de la connaissance historique à cet égard est la philologie. Et donc la philologie qui s'efforce d'établir un texte, de le corriger, de le reconstituer, mais pour remonter à son sens, à sa signification. Eh bien, les documents, les traces, les archives avec lesquelles, à partir desquelles travaille l'historien, vont être d'abord l'objet d'un travail matériel sur les sources, l'établissement des sources, hein, par la critique, donc par un regard réflexif et critique, mais conduisent après, évidemment, un travail interprétatif. Et si on n'accède pas à ce niveau interprétatif, finalement, le savoir qu'on obtiendra sera tout à fait réduit et limité.
Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit tout ce que vous venez de dire l'un et l'autre avec ces mots. Il introduit la notion d'explication qui est au cœur de la polémique, enfin de la discussion plutôt philosophique qui va nous occuper ce matin, explication ou compréhension. C'est Paul Ricoeur, philosophe du XXe siècle. Il s'exprimait sur ces questions concernant l'histoire comme discipline, en 1999.
Je dirais les trois niveaux de l'histoire. Le niveau, les documents. travail d'archive, les faits. Et là, on peut établir des faits, je veux dire, scientifiquement. Combien il y a eu de tués, combien, bon, etc. Bon. Et puis, il y a l'explication. Alors, l'explication, vous pouvez faire une explication par des causes, bon, économiques, bon, et démographiques, de toute espèce, ou par des motifs, des raisons d'agir, bon. Et puis, vous avez des grandes interprétations, c'est-à-dire replacer un segment d'histoire dans un mouvement plus lent, plus vaste, ce que Braudel avait appelé l'histoire de longue durée, où c'est vraiment le mouvement d'un siècle, par exemple. Alors là, les interprétations sont multiples. Alors, je crois qu'il ne faut pas projeter sur l'histoire documentaire les difficultés de l'histoire explicative ou de l'histoire interprétative, qui ont chacune leur faiblesse, leurs difficultés et aussi leurs remèdes. Mais d'abord, il y a l'histoire documentaire, c'est-à-dire ce qui est vérifié par le recoupement de témoignages. Parce que l'équivalent de la méthode expérimentale en histoire, c'est la concordance des témoignages.
Histoire explicative ou interprétative, ces propos de Paul Ricoeur lancent le débat, tout en rappelant qu'il y a des faits, des documents qui offrent une connaissance scientifique. Mais il y a ce problème, explication ou interprétation, compréhension. C'est Wilhelm Dilthey, Christophe Bouton, philosophe pas très connu, mais très important sur ce sujet, né en 1833, donc 2 ans après la mort de Hegel, qui est un philosophe dont nous avons déjà parlé dans le premier épisode de cette série. C'est Dilthey qui lance cette réflexion, ce problème. Pouvez-vous nous en parler un peu, aussi bien de Dilthey lui-même que de ses travaux qui apparaissent à la fin du 19e siècle?
Oui, alors en effet, Dilthey écrit en 1883 une introduction aux sciences de l'esprit qu'il présente comme une critique de la raison historique. Donc il faut se référer, je crois, à Kant pour comprendre sa démarche. Kant se demande quelles sont les conditions de possibilité de la science de la nature de son époque qu'est la physique. Et il y répond à la critique de la raison pure. Et Dilthey, qui se situe donc au milieu du 19e, veut faire le même travail pour ce qu'il appelle les sciences de l'esprit. Alors qu'est-ce qu'il entend par sciences de l'esprit? D'abord l'histoire, ensuite ça inclut la psychologie, la philologie, l'histoire des religions, du droit, tout ce qui a en fait trait aux affaires humaines. Et à partir de là, il applique la méthode de Kant, c'est-à-dire ce qui est réel est possible, comment c'est possible. Donc ces sciences, elles existent, elles se développent, elles sont institutionnalisées à l'université, et elles prétendent offrir une connaissance objective. Et la question de Dilthey, c'est comment l'histoire et comment ces sciences-là sont possibles en tant que connaissance objective, avec l'idée qu'il distingue de façon tranchée, sciences de l'esprit des sciences de la nature.
Alors, puis-je citer un passage? Wilhelm Dilthey écrit ceci: l'esprit, donc là je suppose c'est l'esprit de l'historien par exemple, l'esprit ne comprend que ce qu'il a créé, la nature comme objet de la science de la nature, de la science de la nature, contient la réalité qui est produite indépendamment de l'action de l'esprit. Tout ce sur quoi l'homme, en agissant, a imprimé sa marque, constitue l'objet des sciences de l'esprit. Donc si je comprends bien, Christophe Bouton, quand l'esprit se penche sur la nature, il a un objet qui lui est tout à fait hétérogène. Quand il se penche sur une histoire humaine, c'est l'esprit qui regarde l'esprit, et ça change tout.
Oui, pour Dilthey, en tout cas, ça implique qu'il ne faut pas utiliser les mêmes méthodes pour les sciences de la nature que pour les sciences de l'esprit. Alors, il faut quand même préciser que cette distinction ne signifie pas, pour Dilthey, une opposition de l'esprit et de la nature. Il dit que l'homme est un être naturel, simplement, il n'est pas que cela, il va développer des activités spirituelles, et du coup, la méthodologie des sciences de l'esprit devra différer. Alors, quelles sont les différences entre sciences de l'esprit et sciences de la nature? En fait, comme vous l'avez dit, dans la nature, l'objet est étranger au sujet. On étudie la nature inorganique, alors que dans l'esprit, dans les sciences de l'esprit, c'est l'homme qui étudie l'homme. Il y a aussi comme différence très importante le fait que dans les sciences de l'esprit, les objets sont singuliers, alors que les sciences de la nature, elles cherchent plutôt des lois générales abstraites. Troisième différence, dans les sciences de la nature, dit-elle, explique en faisant une histoire assez schématique, on a évacué la notion de finalité. Alors que dans les sciences de l'esprit, l'étude de la finalité, et notamment de la motivation des acteurs, est très importante.
Ce que vous appelez là la finalité, c'est le fait que les acteurs agissent souvent en ayant des buts, en fait.
Exactement.
C'est le mot but, objectif, qu'on entend dans cet emploi du mot finalité. Et c'est ce que plus tard, Max Weber appellera la rationalité par finalité,
exactement.
Par la considération des fins.
Voilà. Le fait qu'il faut prendre en compte, quand on étudie par exemple en histoire des personnages, des acteurs, le sens qu'ils donnaient à leurs actions et les buts qu'ils poursuivaient. Quand bien même, parfois, ils n'ont pas complètement connaissance de ce qu'ils font, mais c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a la distinction entre intérieur et extérieur qui est importante, parce que dans les sciences de l'esprit, on est face à des données sensibles, des archives, par exemple, dont le sens n'est pas immédiatement visible. Il va falloir faire un travail pour le dégager. Et à la fin, la distinction qui résume un peu cela, c'est ce qui est fait le thème de votre émission. Dans les sciences de l'esprit, on fait appel à la compréhension. Alors que l'un des termes qui permet de qualifier la méthode des sciences de la nature, c'est l'explication. Mais finalement, cette distinction, j'ai regardé, elle n'est pas si présente dans les textes de Diltai. Il y a une phrase très claire dans un texte de 1894 qui s'appelle « Idées pour une psychologie descriptive et analytique ». Là, il dit « Nous expliquons la nature, nous comprenons l'effet psychique ». Et je précise aussi que cette distinction, elle se trouve déjà chez un autre auteur qui est intéressant parce que c'est un élève de Hegel, qui s'appelle Droysen, qui est un grand historien allemand de la deuxième moitié, du 19e siècle, c'est 1808-1884, je crois. Et il écrit un précis de théorie de l'histoire où il fait la distinction entre explication pour la physique qui consiste à dégager des lois générales.
Oui.
Et la compréhension qui consiste à interpréter, en fait, les motivations des acteurs. Et il dit que la méthode de l'histoire, c'est comprendre en recherchant. Donc je pense que c'est un jalon important avant Diltai.
Et il est clair que lorsqu'il parle de l'esprit, il y a une référence à Hegel, même s'il y a des passages où Diltai dit « je n'emploie pas le mot dans le même sens que Hegel », mais ça montre bien que la figure de Hegel a marqué tout le 19e siècle allemand, et sans doute d'ailleurs au-delà. Denis Thoir, je crois que vous aussi, vous ne souhaitez pas durcir trop l'opposition entre explication et compréhension, ou explication et interprétation, même chez Diltai. Ne durcissons pas trop cette opposition. C'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Pour compléter simplement ce qui vient d'être dit, on rappellera que pour les sciences historiques, la grosse différence, c'est que l'objet est du passé et donc n'est plus susceptible d'une expérience. Il est donc à reconstituer à partir de ce qui n'est pas lui, ses traces, ses documents, ses archives. Ça, c'est une grosse différence avec la méthodologie des sciences de la nature, où en laboratoire, on peut toujours refaire une expérience. Donc, pour Diltai, le problème qui se pose, c'est de rattraper en quelque sorte le retard de ce groupe de sciences, ce groupe de sciences historiques par rapport aux sciences de la nature, en leur fournissant, la théorie qui leur convient, qui permet d'expliquer le degré de scientificité dont elles sont susceptibles. Et pour cela, il va s'aider largement de ce que lui fournit déjà la tradition, notamment dans la lecture et l'interprétation des textes, à savoir la philologie. Et à partir de la philologie, il cherchera à montrer comment les sciences de l'esprit peuvent ambitionner également de constituer une objectivité et de comprendre, mais d'expliquer également.
Et vous nous avez transmis
une chose qu'il n'abandonnera jamais.
Oui, un texte de Diltai, un extrait où il écrit ceci, Diltai lui-même, pourtant auteur de la distinction entre interprétation ou compréhension et explication, il écrit ceci: « Entre l'interprétation et l'explication, il n'y a qu'une différence de degré pas une frontière fixe, car la compréhension est une tâche infinie. C'est intéressant, hein, parce que ce ne sont pas des domaines qu'il faut complètement opposer. C'est juste l'idée qu'il y a une limite, hein, à la connaissance dans le domaine de l'histoire, par rapport à celle que l'on peut atteindre dans les sciences dures ou dans les sciences de la nature. C'est juste cette idée de l'infini. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Thoire ?
Oui, alors il y a cela. Il y a aussi qu'il considère que l'objet des sciences de l'esprit n'est pas séparé ontologiquement de celui des sciences de la nature. Il y a toujours une connexion très forte. Et là, il se sépare peut-être justement de Droysen, hein, qu'on a évoqué pour commencer, qui avait tendance à constituer le domaine de l'appréhension historique, où l'historien réfléchit sur les œuvres de l'homme dans le passé, comme quelque chose de radicalement différent du monde de la nature. Diltaï essaie quand même de réconcilier les deux et de tenir le souci de la singularité, la nécessité du détour et de la compréhension avec l'établissement d'une méthode de règles, même si ces règles n'ont pas le même statut que dans les sciences de la nature.
On a l'impression quand même qu'une chose semble exclue. Alors, ce ne sera précisément pas le cas chez Max Weber, plus tard, qui est issu de cette longue discussion, mais il me semble que chez Diltaï, c'est exclu. On ne peut pas vraiment établir des lois dans l'histoire humaine, des choses qui se répètent. D'ailleurs, pour Weber, c'est lorsqu'on inventera la sociologie qu'on pourra tout de même établir certaines lois, et que l'histoire parfois fait démentir, il est vrai. Mais pour Diltaï, est-ce que c'est bien ça, Christophe Bouton ? Il n'y a pas de loi répétable, il n'y a pas de régularité suffisante pour pouvoir établir des lois.
Oui, c'est vrai que Diltaï est très, très réservé à l'idée de dégager des grandes lois de l'histoire. Il pense plutôt les phénomènes historiques comme des totalités qui sont distinctes les unes des autres, qui se comprennent à partir de la notion d'ensemble interactif, Wirkung zusammenhang en allemand, où on a un ensemble d'institutions à une époque donnée qui permet de comprendre une communauté humaine, mais l'idée que à l'intérieur on puisse distinguer des lois globales ou qu'il y ait une loi globale qui permette un enchaînement des différentes époques, ce qui était un des projets des philosophies idéalistes de l'histoire, c'est quelque chose que Diltaï critique. Et du coup, il aboutit dans certains textes à l'idée que face à ces absolus qui s'enchaînent ou qui s'opposent sans loi globale, il se heurte au problème du relativisme historique en disant finalement qu'il faut renoncer à avoir des lois globales qui expliquent le mouvement d'ensemble de l'histoire.
Relativisme, c'est l'histoire elle-même qui crée des choses relatives, mais l'historien n'est pas relativiste au sens où ça... où on ne pourrait pas établir quelque chose de certain. Il dit le singulier, tout le temps, le nouveau et le singulier, c'est ça ?
Oui, alors effectivement, Diltaï veut faire de l'histoire, enfin veut comprendre l'histoire comme une connaissance objective, avec une méthodologie, avec des sources. Simplement, cette connaissance, elle sera circonscrite à un certain contexte, elle sera singulière, et ce à quoi il faut renoncer, c'est l'idée d'une théologie globale, de grandes lois de l'histoire. D'ailleurs, c'est un point critique qu'on trouvera aussi beaucoup chez Simmel, la critique des lois de l'histoire. Et donc, au fond, la rationalité historique, elle est circonscrite à des contextes précis. Et donc, ça va dans le sens exactement de ce que vous dites. C'est-à-dire une connaissance historique objective, mais pas une grande philosophie de l'histoire qui donnerait, en fait, la clé, par exemple, de l'histoire de l'humanité. Ce qu'on a appelé, au XXe siècle, les grands récits. On peut dire que Diltaï, c'est un des premiers auteurs qui critique l'idée de grands récits historiques.
Y compris chez Hegel, historique. Qui a été un peu un maître pour plein de monde, mais sur ce point, c'était trop. L'idée qu'il y ait un grand récit de l'histoire quand même qui mènerait vers la rationalité toujours plus élaborée. Non, ça, c'est fini avec Diltaï et les autres.
Il reprend certains aspects de Hegel, mais pas cette idée d'une finalité globale d'une nécessité aussi de cours de l'histoire, c'est certain.
Alors, je vous remercie d'avoir fait la transition vous-même entre Diltay et Zimmel, Georg Zimmel, qui vivait lui aussi à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, est un penseur assez extraordinaire que Denis Thouars connaît bien. D'ailleurs, vous vous êtes efforcé dans un livre récent d'indiquer les enfants de Zimmel, ceux qui ont reçu cet héritage si diversifié. Il aimait les essais plus que les traités, il aimait la littérature, il était très bon philosophe, il a quand même une sociologie, tout ça. C'est un personnage fascinant, un peu hors discipline. Et effectivement, Zimmel, dans la suite de Diltay, s'intéresse à la manière d'écrire l'histoire. Et l'écriture est toujours une interprétation, nous dit-il. Voici un extrait des Problèmes de la philosophie de l'histoire de 1892 de Zimmel.
Le secret de l'historien en tant qu'artiste réside bien dans sa capacité de conférer une universalité à ce qui est purement individuel et singulier. Et parmi les aptitudes que requiert le métier d'historien, elle est probablement celle qui s'apprend le moins. L'historien classe, structure, ordonne ses données de manière à représenter un processus psychologique sous une forme cohérente. Ce faisant, il opère un peu comme l'écrivain. Et s'il ne dispose pas de la même liberté que lui pour structurer son matériau, la différence est plutôt de degré que de nature. Car une fois que l'écrivain s'est décidé pour un certain type de héros, et que les circonstances ont poussé ses personnages dans une direction donnée, il n'est plus libre. En effet, son récit est alors condamné à évoluer à l'intérieur d'un espace restreint. Et il ne peut s'écarter de ce que l'expérience psychologique courante conduit son lecteur à attendre à partir du moment où celui-ci est suffisamment familier avec les personnages et avec leur histoire. Sa création littéraire commence librement, mais elle doit ensuite se plier aux lois de la réalité. Selon le proverbe, nous sommes libres de décider du premier mouvement, mais le second nous rend esclaves. Quant à l'histoire, elle se contente de retourner le proverbe. Elle est esclave dans un premier temps et doit se plier au matériau factuel qui lui sert de point de départ. Mais dans un second temps, lorsqu'il s'agit de donner forme à cette matière, elle est libre. C'est-à-dire qu'elle dépend alors du fonctionnement des catégories subjectives et des structures théoriques mobilisées par la subjectivité de l'historien.
Merci à Anaïs Isbert de France Culture pour cette lecture d'un très beau texte sur l'écriture de l'histoire, texte de Zimmel qui tout de même, Denis Thouars, interroge. Parce que à la fin, il nous dit, certes l'historien se plie d'abord au matériau factuel, ce qui n'est pas rien, mais ensuite il a une énorme liberté, il évoque la subjectivité de l'historien, le fonctionnement de catégories subjectives. Il va très loin et on pourrait avoir le sentiment par ce texte, qui est peut-être un texte... Enfin, il a écrit beaucoup de choses après Zimmel, peut-être a-t-il évolué, mais on a l'impression de quelque chose, avec un vrai risque de presque d'arbitraire subjectif de l'historien. Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors, on peut revenir là-dessus, effectivement. Ce que je ferais remarquer, c'est qu'on voit qu'il respecte en tout cas l'idée de veto des sources. Hein, donc, on part d'un donné... qu'on ne peut pas remettre en question. Et après, au niveau de l'interprétation, effectivement, il y a une certaine liberté. Pourquoi y a-t-il cette liberté? Parce qu'il réfléchit sur les conditions de la connaissance historique. Et donc, qu'est-ce que connaît l'historien? C'est un continu, une succession d'événements dans laquelle il va rétrospectivement prélever des séquences plus ou moins longue. S'il travaille sur la longue durée, il va prendre quelques millénaires. S'il travaille sur de l'histoire événementielle d'une bataille, il peut prendre quelques semaines. Et il va adapter les concepts pour interpréter ces données en fonction de ses buts. Donc, il a une grande liberté dans la formation en fait des concepts et dans les hypothèses qu'il va proposer en questionnant toujours son objet. Hein. Il va s'interroger sur les motivations des acteurs sans avoir accès à leur intériorité psychologique, mais en formulant des hypothèses. Hein. Ce qui va le contraindre, c'est une contrainte structurelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a accumulé un certain nombre d'hypothèses vraisemblables, il est contraint par la cohérence propre du récit qui est en train de prendre forme. Et le proverbe, en fait, c'est la citation du Faust de Goethe, selon laquelle nous sommes libres de décider le premier mouvement, mais le second nous rend esclaves, oui. Illustre bien cette contrainte structurelle de son récit. Donc voilà, il n'est pas entièrement libre.
Oui. Mais pour cela. Il me semble, mais c'est vous le spécialiste de Zimmel, que un peu plus tard, lorsque ces grands essais qui constitueront sa sociologie, avec un volume dans les années 1900, un peu systématique, enfin même si c'est très difficile de parler de système pour Zimmel, mais il y a quand même une avancée de son analyse. Il dit par exemple que dans l'analyse sociale ou sociologique, il y a une sociologie chez Zimmel, il y a beaucoup de subjectivité à l'œuvre, hein, et sans doute celle de celui qui analyse intègre ce réseau de subjectivité, mais il dit que tout de même il y a des grandes formes qui se dégagent. Alors c'est peut-être un terme plus redevable à Emmanuel Kant qu'à Hegel, par exemple. Il y a des grandes formes, et ça on ne choisit pas vraiment. Enfin, l'historien est obligé, comme le bon sociologue, de voir qu'il y a des choses qui limitent son écriture interprétative. Est-ce que vous êtes d'accord, Denis Thouars ?
Alors, je voudrais rappeler quand même une chose pour qu'on saisisse bien le point de vue que rejoint Zimmel.
Oui.
C'est qu'il a été un des théoriciens du relativisme. Et donc, il défend un relativisme également en histoire et dans toutes les sciences historiques sur le fondement de son analyse de la modernité. Cette analyse de la modernité, il la développe dans un gros ouvrage que peu de gens ont le courage de lire parce qu'il est assez rebutant, qui est La philosophie de l'argent, mais qui est très intéressant puisqu'il montre comment le monde moderne se caractérise par la mise en avant de relations de réciprocité entre des acteurs et la disparition de toutes les entités spirituelles, toutes les entités substantielles traditionnelles. Et donc, nous n'avons plus de repères dans le monde moderne, mais nous avons un ensemble de relations. Et donc, la connaissance peut néanmoins aspirer à des formes d'objectivité depuis chaque point de vue relatif à l'intérieur desquels elle se place et en reconstituant des ensembles cohérents.
Et donc, vous ne pensez pas que la notion de forme chez Zimmel vient un tout petit peu corriger cette théorie du relativisme ? C'est-à-dire l'idée qu'il y a des formes, comme il l'explique justement, la monnaie fixe à un moment donné la valeur des choses, alors que la valeur est proprement subjective. Il y a des choses qui se formalisent à un moment donné, qui objectivent, dit-il, la valeur. Et pour vous, ça ne corrige pas son approche relativiste de la modernité?
C'est-à-dire que pour lui, le relativisme n'est pas contraire à la recherche d'une objectivité.
Alors ça, par exemple, il faudrait m'expliquer, parce que du coup, là, je suis perdue, je ne sais plus. Si le relativisme me paraissait précisément opposé à la recherche d'une vérité qui vaille au-delà d'un sujet, d'une subjectivité, donc qu'est-ce que vous entendez en vérité, Denis Thouars, par relativisme ?
Le fait que le point de départ est lui-même pris dans un ensemble dont il dépend et qu'il n'est pas supérieur. Il n'y a pas de point de vue de surplomb pour Zimmel. Mm-hmm. Donc il y a une sorte de réflexion de la condition historique. On pourrait parler chez lui d'une historicité ou d'une historisation radicale. On a plusieurs ensembles qui font sens, comme l'ensemble juridique, l'ensemble politique, l'ensemble économique, qui répondent à des contraintes propres, des cohérences propres à leurs ensembles. Donc il n'y a rien qui vient transcender ces différents mondes en fait dans lequel l'activité sensée se déploie.
Et le oui, je vous en prie, allez-y, finissez. C'est très intéressant. C'est vraiment, comment dire, vous savez, Il y a un livre de Philippe Roth qui s'appelle Parlons travail, c'est-à-dire parlons du travail du romancier, technique. Et bien là, ce que j'aime bien dans tout ce que vous dites, c'est que vous nous parlez du travail de l'historien. Techniquement, c'est difficile, c'est ça qui est très intéressant dans votre réponse. Donc je vous laisse prolonger, Denis Thouars.
Et le travail de l'historien, de proposer des formes justement et d'appréhender le passé, par exemple, à partir d'hypothèses et de mises en relation qui sont révisables, mais qui dépendent d'un travail de l'esprit. C'est pour cela que la comparaison entre l'historien et l'artiste est licite chez Simmel, puisqu'il y a un travail de recomposition. De propositions formelles qui est faite par l'historien.
En tout cas, on est, Christophe Bouton, dans le cœur de la discussion. Est-ce que ces considérations sur l'impossibilité pour l'historien de mettre de côté sa subjectivité, est-ce que cela ne risque pas de conduire, en effet, à ruiner l'idée d'une science de l'histoire? À partir de Dilthey, c'est ce débat qui est ouvert. Alors, sur Simmel, là, on a eu le petit échange qui vient d'être entendu avec Denis Thouars. On va passer à Max Weber, qui connaissait bien Simmel, hein, qui l'a accueilli, etc., et qui l'a soutenu, malgré toutes ses difficultés pour se faire nommer en tant que juif dans l'université allemande. Weber l'a soutenu. Weber fait partie de ceux qui voulaient tout de même, Christophe Bouton, qu'il y ait un peu plus de scientificité. Et ça le gênait que les sciences sociales et humaines se retrouvent complètement bloquées dans un relativisme lié à la fracture opérée par Dilthey.
Oui, même si Weber va pointer ce qu'il appelle la guerre des dieux, à savoir qu'il y a des valeurs qui s'opposent. À mon avis, c'est déjà une idée qui est chez Dilthey, qui prétendent chacune à une absoluité, donc des cultures qui ont des conceptions du monde différentes, et qui n'y a pas forcément de point de vue global absolu, comme le voulait un Hegel, qui permette de les réconcilier. Maintenant, en ce qui concerne Weber, déjà dans sa définition de la sociologie, qui est bien connue, pour revenir au sujet de l'émission, il associe complètement compréhension et explication.
Voilà, alors là, après cette énorme discussion, en voilà un qui se dit « c'est pas très malin d'avoir tout distingué comme ça ». Alors je vais lire, donc on a retrouvé ces papiers qui constituent l'énorme chantier de économie et société, puisque le problème de Weber, c'est qu'il est mort très brutalement en 1920. Et donc, dans une partie bien connue de ses papiers, on lit cette phrase, on appellera sociologie une science qui veut comprendre l'action sociale en l'interprétant et par là l'expliquer causalement en son déroulement et ses effets. Donc là, l'explication est consécutive au fait même d'interpréter. Et quelques pages plus loin, il dit précisément ce qu'il entend par comprendre. Écoutez cet extrait.
Comprendre peut signifier 1. La compréhension actuelle du sens visé d'une action, y compris d'une expression. Par exemple, nous comprenons, sur un mode actuel, le sens de l'énoncé 2 fois 2 est égal à 4, que nous entendons ou que nous lisons. La compréhension rationnelle et actuelle d'idées. Ou un accès de colère qui se manifeste par une expression du visage, des interjonctions ou des mouvements irrationnels, ou encore le comportement d'un bûcheron, ou de quelqu'un qui saisit une poignée pour fermer une porte, ou qui couche en joue un animal. Mais comprendre peut signifier aussi 2. Une compréhension explicative. Nous comprenons, selon les motivations, quel sens celui qui prononce ou qui écrit l'énoncé 2 fois 2 est égal à 4 à associer au fait qu'il l'a fait précisément à ce moment et dans cet enchaînement. Quand nous le voyons engagé dans un calcul commercial, une démonstration scientifique, un calcul technique ou un autre type d'action et que cette proposition s'inscrit dans le contexte de ces actions en fonction de leur sens tel qu'il nous est intelligible. C'est-à-dire quand cet énoncé acquiert une configuration de sens qui nous est intelligible. Nous comprenons l'action de fendre du bois ou de mettre en joue, non seulement sur un mode actuel, mais également selon les motivations, quand nous savons que le bûcheron accomplit son action soit contre salaire, soit pour ses besoins personnels, ou encore pour se détendre, ou par exemple parce qu'il abréagit une excitation. Nous comprenons de la même manière l'action du tireur qui agit sur ordre, pour exécuter quelqu'un ou pour combattre des ennemis, ou encore par vengeance. Enfin, nous comprenons, selon les motivations, la colère, quand nous savons qu'elle a pour fondement une jalousie, une vanité froissée ou un honneur offensé. Tout cela constitue des configurations de sens intelligibles, dont nous considérons la compréhension comme une explication du déroulement effectif de l'action.
Et voilà, les configurations de sens intelligibles, nous dit Weber, procèdent de formes de compréhension de diverses choses, notamment évoquant les motivations des acteurs conscientes ou inconscientes, mais ça finit par donner une explication, il dit bien une, hein, il ne dit jamais l'explication, et il va même, quelques pages plus loin, et dans d'autres textes, réhabiliter l'idée que la sociologie, en tout cas, et l'histoire ne saurait lui être tout à fait étrangère, trouve des lois, parfois, elle qui construit des types aussi, il peut y avoir des lois, il évoque la loi de Gresham, qui est une loi économique du XVIe siècle, Thomas Gresham est un financier qui écrivait à Élisabeth Ière d'Angleterre, cette loi d'économie disait que la mauvaise monnaie chasse la bonne, et bien peut-être qu'en histoire et en sociologie, il y a des lois analogues. Écoutez ce très très court extrait de Weber sur les lois.
Les lois ? Ainsi que l'on a coutume de désigner un certain nombre de propositions théoriques de la sociologie de compréhension, par exemple la loi de Gresham, représente des chances typiques d'un déroulement de l'action sociale, celui auquel on peut s'attendre en présence de certains faits, des chances qui sont corroborées par l'observation et qui sont intelligibles à partir des motivations typiques et du sens visé typique propre aux acteurs.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Christophe Bouton, tout ça pour ça, ils se sont beaucoup affrontés tous, enfin ils ont réfléchi ensemble à distinguer l'explication de la compréhension, à distinguer les sciences de la nature des sciences humaines, à refuser le concept de loi pour les sciences humaines et l'histoire. Et voilà Max Weber qui réconcilie tout le monde. Il y a des lois en histoire, il y a des types, en tout cas certaines lois dans les organisations humaines. Il y a des types qu'on peut dégager, qui s'organisent les uns par rapport aux autres. Tout ça pour ça.
Oui, alors il faut rappeler quand même que Weber reprend le concept de compréhension qui était posé par Dilthey et par Pierre Zimmel. Et d'ailleurs, dans le texte qui a été lu, il distingue différents niveaux de compréhension. On trouve déjà cette distinction chez les auteurs que j'ai évoqués. Vous avez une compréhension, je dirais, immédiate, où Dilthey dit élémentaire. Weber parle de compréhension actuelle. Donc, on comprend un comportement, une phrase, on comprend une équation de 2 fois 2 égale 4. Mais ce que vise la compréhension dans les sciences de l'esprit, ou ce qu'on appellera les sciences humaines et sociales, et le concept de Weber, c'est comprendre les motivations d'un acteur, donc ça va au-delà de la compréhension, comme je dis, je comprends une phrase, il faut comprendre pourquoi la personne dit cette phrase dans ce contexte. D'où l'exemple du bûcheron. Est-ce que le bûcheron coupe parce qu'il veut gagner de l'argent, il veut aider un ami, ou tout simplement c'est pour lui, pour l'hiver? Et donc, quand même, Weber reprend ce concept de compréhension, ce qui fait qu'on dit que sa sociologie est compréhensive, c'est-à-dire que au fond, il associe une approche qui prend en compte les contraintes structurelles qui s'imposent aux agents, sociales ou économiques, où là on peut avoir des lois, des régularités, et en même temps, les représentations, les finalités, les buts, les significations que les acteurs ont en tête au moment où ils agissent. Et Weber, il est pluraliste, c'est-à-dire il veut différents types d'explications, donc il va prendre d'ailleurs le terme d'explication en un sens large. D'ailleurs, Ricoeur est weberien quand il parle d'explication, il a une position intéressante, il prend l'explication comme le concept le plus large et dit vous avez une explication par les causes, une explication par les raisons, les motivations, et c'est ça qu'on appelle compréhension. Et je pense qu'il est assez weberien sur ce plan. Maintenant, les lois en question, ou les généralités qui se dégagent, si vous regardez le deuxième texte, c'est pas des lois nécessaires comme en physique, par exemple. ou en chimie. Hein. Weber parle des chances qui sont corroborées par l'observation. Au fond, ce sont des lois probabilistes. Ce à quoi on peut s'attendre au vu des observations qui ont été faites, au vu des statistiques oui. aussi. Et Weber, c'est un point commun avec Durkheim, au début de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il parle de statistiques qui pose le lien entre des régions protestantes et l'émergence du capitalisme. Donc, il y a des régularités, mais c'est pas des régularités qui sont des nécessités. Hein, donc, le concept de loi est quand même plus souple que celui des sciences de la nature.
Vous êtes d'accord, Denis Thouars, Weber récupère quand même dans sa sociologie compréhensive et peut-être aussi dans sa vision de l'histoire, peut-être faut-il d'ailleurs distinguer ces deux points, vous me le direz. Il récupère la notion d'explication, il récupère la notion de loi, peut-être trop vite écartée, les deux, mais il les transforme quand même, comme vient de nous le dire Christophe Bouton. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Thouars ?
Weber, mais aussi Simmel, Dilthey, Rickert, Troeltsch sont des composantes qui arrivent à penser avec une assez grande rigueur les rapports entre la compréhension, l'explication et y compris l'insertion de la loi. Même dans la sociologie de Simmel, quand il signale que un groupe minoritaire va avoir plus de cohérence interne qu'un groupe majoritaire, on pourrait dire voilà une loi de ce type. Mais c'est évidemment pas une loi du développement, mais c'est la prise en compte de régularités qui sont observables au point que on puisse parler voilà de contrainte du nombre, enfin à deux, à trois ou à plus, les rapports entre les membres d'un groupe vont différer. Donc là, il y a des observations qu'on peut faire qui ont une portée plus générale, et je pense que Weber s'inscrit dans cette forme de réflexion.
Est-ce que vous pensez que Weber était tiraillé en fait entre une conviction en effet que le domaine historique et social en général ne saurait être comme la nature, au passage, ils avaient tous une vision des sciences de la nature qui a été finalement complètement révolutionnée par la physique quantique, hein, qui elle-même a introduit la relativité, etc. Mais en leur temps, ils voyaient bien qu'on ne pouvait pas faire aussi bien, disons, que la physique newtonienne. Et en même temps, Weber me paraît plus que tous les autres que nous venons d'évoquer, le plus embêté par le fait que on ne puisse pas avoir d'énoncés scientifiques. Et il veut sauver des énoncés scientifiques un tout petit peu plus déterminants que juste la compréhension. Donc, on peut créer des types idéaux, on peut créer des sortes de lois. Il craint quelque chose. Vous ne trouvez pas, Denis Thouars ? Il craint le relativisme, bien plus que Simmel, vous l'avez expliqué vous-même.
Oui. Il y a un éthos scientifique qui accompagne Weber et qui fait le caractère un peu tragique de cette figure, parce qu'ils reconnaissent cette dispersion des valeurs, le fait qu'on n'a plus de cadre, plus d'orientation fixe, mais il veut maintenir l'idée d'une science rigoureuse et donc il cherche à tenir de choses qui jurent entre elles, alors que Simmel, sur ce point, on va dire, est beaucoup plus décontracté au sens où il est attentif à produire la forme de science compatible avec son objet, sans chercher à forcer ou à préserver un idéal scientifique auquel il ne peut plus croire absolument, mais il est déjà tout à fait conscient des progrès de la géométrie et même des débuts de la physique quantique. Hein. Donc, il est très très informé aussi de ce qui se passe du côté des sciences de la nature.
Ce qui pourrait contribuer d'ailleurs à l'inquiéter si le relativisme devient le maître mot de toutes les sortes de pensées de connaissances. D'une façon générale, nous le savons, la conférence de 1917 le dit très clairement. Weber craignait que la figure du savant, dans sa modestie même, soit renversée quoi, par de la recherche de prophètes, la recherche de chefs, la recherche de figures qui prononcent ce qu'il appelait des jugements de valeur, alors qu'il disait le savant, il n'est pas dans le jugement de valeur, parce que sinon il pourrait même pas voir les faits qui le dérangent. Il est dans un rapport aux valeurs, ça c'est vrai, dit-il. Mais enfin, il réussit à mettre une distance. Je trouve ça effectivement tragique et assez touchant, Weber. En plus, il est mort tellement vite en laissant plein de chantiers. On se dit que 20 ans après, il aurait peut-être mis de l'ordre dans tout ça, Christophe Bouton.
Oui, en effet, il est mort prématurément et il a un idéal de scientificité très fort. Et puisqu'on parle de connaissances historiques, je voudrais mentionner un texte de 1906 qui est resté, qu'il a écrit, mais qui n'a pas publié, je crois, de son vivant, qui s'appelle « Possibilités objectives et connaissances adéquates en histoire », où il veut penser les moyens de faire de la causalité en histoire une connaissance objective. Et si je résume, sa position est très moderne. Il propose, en fait, il distingue une causalité accidentelle et une causalité adéquate. Causalité accidentelle, c'est un événement qui en produit une série d'autres, mais qui n'est pas déterminant. Il donne l'exemple de coups de feu en mars 48 à Berlin qui déclenchent des émeutes, mais il dit si ces coups de feu n'avaient pas eu lieu, de toute façon, les émeutes conduisent aux événements révolutionnaire aurait eu lieu parce que la situation était explosive. Et puis, il prend un autre exemple, c'est la bataille de Marathon, la victoire des Grecs à Marathon, 490, et il dit, on peut considérer que c'est la cause de ce qu'on appelait le miracle grec, parce que si cet événement n'avait pas eu lieu, on peut penser que si les Perses avaient gagné, ils auraient imposé une théocratie en Grèce, ou des théocraties qui n'auraient pas permis cette efflorescence des sciences et des arts. Voilà. Et donc, il propose une conception dite aujourd'hui contrefactuelle de la causalité, qui est assez, assez moderne, et qui fait appel à la fois à l'imagination de l'historien, puisqu'il doit construire des possibilités objectives, il doit imaginer qu'est-ce qui se serait passé si tel événement n'avait pas eu lieu, et en même temps, c'est un raisonnement qui est étayé par des sources, par des connaissances, et qui produit une forme de vérité historique. Donc, c'est un exemple qui me semble intéressant du travail conceptuel de Weber pour penser l'histoire comme une connaissance objective.
Je vous laisse le dernier mot, Denis Thouars, pardonnez-moi, je suis obligée de vous le demander. Bref, mais peut-être avez-vous quelque chose à dire sur cet héritage aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'époque est en train de devenir assez sérieusement relativiste, non ? Et le tragique Weberien, l'envie de fonder quand même des vérités historiques, c'est particulièrement touchant ?
Oui, y compris, je dirais que même la théorisation du relativisme par Zimmel n'a rien à voir avec les formes de relativisme et donc d'arbitraire que nous commençons à avoir de plus en plus autour de nous.
Merci de le rappeler.
Il y a effectivement quelque chose de tragique et d'incitatif à retourner à ces textes pour fourbir des outils intellectuels pour affronter notre temps.
Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no. But when two eager lips are pressed against yours, you'll know, yes, you'll know. Can anyone explain the glow of romance? No, no, no. But when you hear the phrase, it's you I adore, you'll know, yes, you'll know. And you will find to give love a start. Don't think with your mind, just feel with your heart. Can anyone explain the wonder of love? No. But now that you and I are sharing a sigh, we know, yes, we know.
Say, Pops. Oh, Pops, put that horn down and listen. I want to ask you a question.
What's bugging you, baby?
Well, have you ever been in love?
How you sound. I've been in love 4 times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss?
No, no, no.
Et sur le concept d'explication, quoi de mieux que Ella Fitzgerald dans cette chanson de 1950, Can anyone explain the thrill of a kiss? Quelqu'un peut-il expliquer le frisson d'un baiser? Merci beaucoup Denis Thouars et Christophe Bouton. Les références de vos travaux, qui sont très nombreux et passionnants, sont précisées sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms qui, cette semaine, s'intéresse à la question du respect. Que doit-on respecter?
Pourquoi faut-il distinguer l'irrespect et l'humiliation? On peut appeler respect entre les êtres humains le fait pour un être humain de considérer l'autre comme supérieur à lui et de le manifester par des comportements concrets. Mais il y a deux formes ou deux versions du respect. Il y a le respect social pour une autorité qui est investie provisoirement dans les démocraties et essentiellement dans certaines autres théories politiques, qui est investie d'une autorité sur les autres. Alors je dois respecter, disons, une fonction dans l'être humain. C'est fondamental pour la société, je dois m'incliner devant le képi du gendarme, devant l'autorité de l'homme politique, investi d'un pouvoir législatif, par exemple, devant celle d'un professeur ou d'un médecin, dans ses fonctions fondées sur des titres et sur des reconnaissances juridiques. Mais il y a une autre version du respect. Cette autre version du respect, c'est le respect que les êtres humains se doivent mutuellement en tant que tels. C'est à la fois un respect moral, comme chez Kant, le respect de l'autre en tant que ayant une personnalité égale à la mienne et qui je dois traiter comme une fin pour elle-même et non pas comme un moyen pour moi. Et puis, c'est une responsabilité très concrète de répondre à ce que Simone Veil appelait dans l'enracinement les obligations envers l'être humain. Ces deux dimensions du respect sont tout à fait différentes et l'une des preuves, c'est la façon de les contredire. Il y a en effet, dans la transgression par rapport au respect des autorités, par rapport au pouvoir que Pascal appelait d'apparence, à la raison des effets, à la robe du magistrat par exemple, il y a des transgressions qui brisent l'ordre social et puis il y a des transgressions minimes qui au contraire viennent rappeler que derrière ce respect des fonctions, il y a un respect plus fondamental des personnes. Ainsi, l'insolence, l'irrespect des adolescents, par exemple, dans les tensions avec l'autorité parentale, si elle ne vient pas contredire le respect de la personne, n'est-elle pas une humiliation? Il y a des formes d'insolence ou d'irrespect qui viennent rétablir une égalité fondamentale entre les humains à travers la dissymétrie provisoire mais nécessaire des fonctions. Alors, l'insolence est aussi un moyen de rétablir une égalité dans un respect mutuel de la vérité, par exemple, qui est respectée et du bien commun. L'insolence est même un passage par la négativité pour l'adolescent qui doit s'émanciper d'une forme de respect de l'autorité parentale. Mais on distinguera profondément l'humiliation et l'irrespect. L'humiliation, ça n'est pas la transgression d'une autorité respectée conventionnellement et qui préserverait le principe social du respect entre les humains. L'humiliation, au contraire, c'est la transgression du respect fondamental dû aux personnes. C'est le fait de piétiner à la fois une dignité et une vie. C'est toujours la transgression d'un principe moral et d'une obligation vitale. L'humiliation passe toujours aussi par le pied posé sur la joue, par le mépris des besoins les plus vitaux, le mépris de la santé, de la nourriture ou de l'amour. C'est à la fois le mépris d'une personne et le mépris d'un être vivant. L'humiliation est donc la destruction du sentiment de la personne, de son propre respect de soi, le respect de soi-même étant la condition pour être une personne humaine. Il faut donc distinguer profondément l'irrespect provisoire salutaire, l'ironie critique qui permet de rétablir les relations fondamentales par-delà les relations sociales, de l'humiliation qui est tout le contraire, qui détruit les relations personnelles et qui du même coup, évidemment, détruira aussi la société.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Victoire Mellet, Corinne Amar, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.